Thiers des Amériques, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Port-au-Prince. La capitale haïtienne, où ont atterri hier encore par centaines ceux refoulés du sud des États-Unis, des migrants expulsés après des jours sous un pont d'une ville texane. On consacre aujourd'hui notre rendez-vous à ce dossier. On est à Port-au-Prince, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et on analyse cette politique migratoire de Joe Biden avec notre invité du jour. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première, Serge Massot. Depuis ce matin, la Martinique découvre l'usage du pass sanitaire.
Oui, ce qui inquiète les commerces dits non essentiels qui s'apprêtent à rouvrir aujourd'hui. Reportage à suivre dans des restaurants de Fort-de-France.
A tout à l'heure, Serge, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Rarement, pour ne pas dire jamais, les services migratoires d'Haïti n'avaient eu à gérer un tel afflux. Après les trois vols de dimanche, hier, mardi, ce sont quatre nouveaux avions partis du Texas aux États-Unis qui ont atterri à Port-au-Prince. Par centaines, les migrants haïtiens qui avaient trouvé refuge sous un pont de la ville frontalière de Del Rio sont renvoyés dans leur pays d'origine, Haïti, que beaucoup avaient fui depuis bien longtemps, comme la jeune femme Camélie Baron a rencontré à sa descente d'avion.
En descendant du bus venu les récupérer dès leur sortie de l'avion, les personnes expulsées explosent de colère et passent leurs nerfs sur les journalistes qui voudraient les filmer et sur les employés de l'Office national de migration qui tentent par des mégaphones de leur expliquer la procédure d'enregistrement. Assise un peu en retrait des tentes où règne cette confusion, une jeune femme de 33 ans qui, parce qu'elle souhaite rester anonyme, sera surnommée Rosa. Elle a quitté Haïti à la suite du séisme du 12 janvier 2010 avec un seul but en tête.
Étudier, terminer mes études parce que j'étais arrivée en classe de première. Après le tremblement de terre, tout était détruit. Il n'y avait plus d'avenir. Ma mère m'a amenée à Saint-Domingue. Je pensais que j'allais pouvoir étudier, mais j'ai été confrontée à du racisme. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai été au Brésil, mais je n'avais pas assez d'argent pour payer les formations. Et ensuite, je n'ai plus eu le temps parce que les emplois qu'on peut trouver quand on est une femme immigrée, c'est du lundi au dimanche sans repos.
Rosa a travaillé dans une blanchisserie industrielle. Elle envoyait régulièrement de l'argent à ses proches restés à Port-au-Prince, mais la pandémie de Covid-19 a signé le début des problèmes pour elle.
La vie est bien, ils respectent les immigrés et ne sont pas racistes, mais l'économie n'allait plus. Je voulais offrir une maison pour mon père, il est malade. C'est pour ça que j'ai pris la route, pour pouvoir l'aider et qu'il soit à l'aise, car il m'avait rendue heureuse quand j'étais petite.
Rosa se lance alors sur cette route migratoire si dangereuse à travers l'Amérique centrale.
Du Brésil au Mexique, je suis passée par pas moins de 9 pays. J'ai entendu beaucoup de choses terribles qui sont arrivées à des gens qui étaient dans le groupe avec lequel j'ai voyagé un moment. Moi, une seule chose m'est arrivée, j'ai manqué d'être emportée par l'eau, mais Dieu avait la main sur moi.
Après tous ses efforts, elle se retrouve aujourd'hui assise à côté de la piste de l'aéroport de Port-au-Prince.
Ça me fait mal, pas pour moi, mais pour mon papa, car les rêves que je faisais pour lui sont tombés à l'eau et il avait placé beaucoup d'espoir en moi, comme mes petits frères et sœurs. Vous savez, depuis que l'aîné est à l'étranger, on compte sur lui. En cas de besoin, il m'appelait « Ah, ma sœur, j'ai besoin de 100 $ ou 50 $ ». Tout ça est tombé à l'eau, mais la vie n'est pas finie. Aujourd'hui, je peux ne pas saisir la volonté de Dieu, mais demain, peut-être, je comprendrai.
Revenir en Haïti après plus d'une décennie à vivre à l'étranger, pour l'heure, c'est un cauchemar pour elle.
Le pays allait toujours mal, mais ça n'était pas à ce point. Les gens pouvaient marcher dans les rues, même s'il y avait déjà des gangs, les activités fonctionnaient. En 2010, les choses n'étaient pas dans cet état. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Quand on lui demande si elle va donc rester en Haïti, elle rigole, sa réponse est cinglante.
Même pour la blague, je ne resterai pas. C'est mon pays, je me résigne, mais dès qu'une opportunité se présentera, je partirai.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et c'est pour cette raison, parce qu'ils veulent à tout prix ne pas être renvoyés en Haïti, que parmi les milliers de migrants de Del Rio, certains ont décidé de rebrousser chemin, de revenir côté mexicain afin d'éviter l'expulsion par les États-Unis. Thomas Arms est l'envoyé spécial de RFI à la frontière américano-mexicaine.
Mamoun Ismaël regarde le gué qui traverse le Rio Grande et mène aux États-Unis de l'autre côté. Elle a vécu 2 ans au Chili et pour arriver au bord de ce fleuve, elle a traversé 8 pays. Elle était du côté mexicain quand les États-Unis ont annoncé la reprise des expulsions.
Nous ne voulons pas traverser. La situation est très difficile pour nous ici. Notre famille n'a pas les moyens de nous aider. On a peur d'aller de l'autre côté du fleuve. Parce que si nous traversons et que les Américains nous renvoient, que se passera-t-il? Nous n'avons pas d'endroit où aller. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons pas de président. Qu'allons-nous faire? Pour nos cousins restés en Haïti, c'est nous qui devons aller de l'avant et chercher quelque chose pour les aider, ceux qui ne sont pas morts. Mais si nous nous présentons aux gardes-frontières américains, les choses seront pires pour nous. Quelle misère! En ce moment, nous dormons dans les rues. Nous n'avons même pas d'argent pour payer un hôtel. Nous n'avons rien.
Pourtant, Mamoun, qui a passé quelques jours dans le camp sous le pont de Del Rio, a décidé de rester du côté mexicain. Pas le choix, dit-elle.
Nous sommes obligés de rester ici et d'attendre encore un peu pour voir comment cela va évoluer. Vous savez comment les rumeurs circulent. Tout le monde parle des expulsions sur les médias sociaux. Donc j'ai un peu peur. Mais au fond, je ne suis pas totalement convaincue que je risque vraiment d'être expulsée. Donc j'attends de voir comment la situation va évoluer.
Elle fait partie de la quinzaine de milliers de personnes qui ont suivi une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux, disant que Del Rio était le seul point de passage vers les États-Unis encore ouvert. Elle a suivi des instructions très précises en créole sur le bus à prendre, avec quel ticket, pour parvenir à Del Rio, au Texas.
Vous parlez français ?
Dans la ville de la Ciudad Acuña, sur le côté mexicain, en face de Del Rio, Judson Auguste marche avec un ami dans la rue commerçante. Il a reçu des messages qui l'ont alerté du danger de la reprise des expulsions.
Chaque Haïtien fait partie d'au moins un groupe sur les réseaux sociaux. Et il y a un groupe pour chaque région que l'on a dû traverser depuis qu'on a quitté Haïti. Tout le monde partage des informations spécifiques sur chaque région et on s'entraide en prévenant si les autres peuvent venir ou s'ils doivent attendre. Par exemple, pour ceux qui veulent aller à Del Rio, on a écrit « Attention, n'y allez pas, les États-Unis ont relancé les expulsions ».
Judson a quitté Haïti en 2019 pour le Brésil où il a vécu un an et demi, mais la vie y est trop chère, impossible d'économiser suffisamment pour envoyer de l'argent à la famille en Haïti. Alors il compte aussi rester au Mexique.
Les choses sont difficiles, nous ne pouvons pas trouver de maison, nous ne trouvons pas d'endroit où vivre et nous ne travaillons pas. C'est ma famille aux États-Unis qui nous aide et elle ne peut pas toujours le faire.
C'est fermé de l'autre côté, c'est fermé ici, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Bon, nous obligés de rester ici à chercher du travail.
Nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici et de chercher du travail. Parce que si nous partons et passons la frontière, les Américains nous renverront en Haïti. Et c'est le pire qui puisse nous arriver. S'ils nous renvoient, nous n'aurons plus suffisamment d'argent pour pouvoir revenir. Mes parents en Haïti ont vendu presque toutes nos terres pour qu'on puisse arriver ici.
Pour nous tourner ici. Et tandis que tout presque est fini.
Vous allez retenter de traverser ?
Si elle est ouverte, ça dépend.
Si la frontière s'ouvre, oui. Mais ça dépend de l'endroit où elle s'ouvre. Mais oui, nous irons quand les États-Unis accepteront des gens. Nous irons.
Près de 19 000 Haïtiens ont fait une demande d'asile au Mexique, qui les a acceptés tant que ces migrants obéissent aux lois du pays, ont précisé les autorités mexicaines. De leur côté, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne ralentiraient pas les expulsions de sitôt. Thomas Arms, Del Rio, RFI.
Et bien que la Maison-Blanche elle-même se soit dite choquée par les images de ces Haïtiens aussi poursuivis à cheval par des agents de l'immigration américaine. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Michael.
Tout ça vaut à Joe Biden de nombreuses critiques au sein même de son camp.
Oui, Joe Biden, face à la colère croissante des démocrates sur sa politique migratoire, titre le Washington Post ce matin. Le quotidien souligne le malaise de la Maison-Blanche pour expliquer le traitement cruel des migrants haïtiens par les gardes-frontières. Le Dallas Morning News, de son côté, estime que le président américain a raison d'user de son autorité pour envoyer les migrants sur des vols charter, pas forcément en Haïti, mais au Brésil et au Chili, par exemple, où ces Haïtiens s'étaient installés. L'administration américaine devrait rechercher des solutions régionales, préconise le journal de Texas. Le site haïtien Haibo Post pointe aujourd'hui du doigt la co-responsabilité des États-Unis dans la crise actuelle. Ce sont des armes fabriquées et vendues aux États-Unis qui sont utilisées dans les guerres de gangs et pour le kidnapping en Haïti. Ces équipements amplifient l'insécurité qui, avec la précarité, fait fuir les Haïtiens vers d'autres pays. Et ces mêmes Haïtiens sont aujourd'hui déportés en masse par l'administration de Joe Biden, fustige Haibo Post.
Merci Stéphanie. Et bonjour à vous, Olivier Richaume.
Bonjour.
Maître de conférence en civilisation américaine à l'Université de Lyon 2, spécialiste de ces questions d'immigration aux États-Unis. Il y a les critiques en interne, le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, qui évoque des expulsions ignobles. Et puis il y a ces critiques aussi qui émanent de l'ONU, qui estime que ce qui est en train de se passer à Del Rio pourrait s'apparenter à du refoulement contraire au droit international. Qu'en dites-vous ?
Que le droit international pèse peu sur les décisions qui sont prises par les présidents américains dans tous les domaines, dans le domaine migratoire aussi. Par contre, les critiques du camp démocrate, là, c'est un peu plus compliqué. On voit bien que Joe Biden a du mal à se positionner. Ces démocrates sentent bien que ces politiques sont au contraire à leurs valeurs et parfois aux promesses qu'ils ont faites lors de leur campagne électorale. D'un autre côté, vous avez aussi les républicains. Il faut se souvenir que Donald Trump n'est plus là vraiment dans les médias, mais que ses thèmes de prédilection, notamment la peur de l'immigration, est toujours très omniprésent. Et vous avez des républicains qui se donnent en cœur joie de l'autre côté, pensant que c'est là un des points faibles de l'administration démocrate.
Joe Biden qui avait promis une politique en la matière plus humaine. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui ces choix qui sont faits de renvoyer ainsi chez eux des migrants haïtiens dans un pays où il n'y a aucune sécurité et aucun avenir pour eux ?
Ah bah ça c'est un choix déplorable évidemment, mais en fait il y a deux types d'annonces. Vous avez de l'autre côté des annonces contradictoires en disant qu'on va protéger de la déportation, du renvoi 100 000 Haïtiens qui sont déjà sur le sol. Donc on essaye de ménager la chèvre et le chou parce qu'on est
arrivé
très
avant fin juillet en fait. C'est une question de date pour ces gens-là.
Voilà, en fait, et qu'on a déjà des gens sur le territoire et que, comme on peut pas accueillir toute la misère du monde, on essaye de protéger certains. On dit qu'on va faire une politique un peu plus humaine, mais d'un autre côté, on continue. Et c'est un casse-tête pour toutes les administrations, qu'elles soient démocrates ou républicaines. Cette gestion de crise humanitaire à la frontière créée par notamment le président Trump, continué par Joe Biden, et en même temps subir les attaques. Là, vous avez le gouverneur du Texas, le vice-gouverneur du Texas, qui se sont embréchés, enfin qui sont allés engouffrés dans la brèche, comme le font depuis des années des candidats du style Trump, qui disent voilà, les États-Unis sont en train d'être envahis, on va se faire envahir par ces gens qui viennent sans même un coup de feu, sans aucune arme, c'est une invasion, comme on peut le voir un peu sur Fox News. Et donc, vous avez cette réalité politicienne, parce que voilà, Joe Biden reste un homme politique et les intérêts partisans jouent. Et donc, on voit bien qu'il sent que c'est une faiblesse et qu'il y a une partie de l'Amérique qui est très sensible, voire très hostile, on va dire, à toute forme d'immigration.
La presse américaine parle aussi, rejette la faute entre guillemets sur Joe Biden, l'accusant d'avoir une politique dysfonctionnelle en la matière avec des messages contradictoires. Elle est vraiment dysfonctionnelle, cette politique migratoire du président américain ?
Disons qu'on n'arrive pas à la lire. Il n'y a pas de message clair, il n'y a pas de ligne claire. Il a continué, il a maintenu les politiques les plus critiquées par Trump. On se sert de la Covid, de la pandémie pour renvoyer les gens plus rapidement. Et donc, en fait, on a un message pour l'instant qui est brouillé. Et ça, c'est très mauvais d'un point de vue électoral, on va dire, pour les démocrates, pour le cycle électoral qui arrive en 2022. C'est pour ça que beaucoup de démocrates sont très critiques. C'est qu'on pourrait avoir une politique qui soit un peu plus humaine et qui, surtout, soit beaucoup plus lisible pour le peuple américain. On ne pourra pas accepter tout le monde, mais on pourrait quand même avoir des mesures fortes qui permettent un peu que l'électorat démocrate s'y retrouve.
Parce que dans le même temps, Olivier Richomme, il faut le préciser, des dizaines de milliers de familles qui venaient d'Amérique centrale avec des enfants ont été autorisées à pénétrer aux États-Unis et à suivre la procédure de demande d'asile.
Voilà, on a essayé de rouvrir un petit peu à ce niveau-là, parce qu'il y a une procédure légale qu'il faut suivre. D'un autre côté, on les laisse quand même du côté mexicain, alors qu'avant, ils avaient le droit de s'installer aux États-Unis en attendant la décision. Donc, on a une crise humanitaire du côté mexicain. Le Mexique se retrouve à devoir gérer cette crise humanitaire de son côté de la frontière. Donc, c'est pas clair et le message est trop, trop brouillé.
Et justement, Olivier Richomme, certains, les éditorialistes, Stéphanie Schuller nous le disait, plaident pour que les Haïtiens, là, en l'occurrence, ne soient pas renvoyés en Haïti, mais dans les pays par lesquels ils ont transité ou bien dans lesquels ils se sont installés un temps. Une solution régionale, finalement. Est-ce que c'est envisageable ?
C'est là qu'on voit la complexité du sujet et qu'il n'y a pas de bonne solution. On le voit aussi en Europe sur ces questions-là. On essaye de demander aux partenaires régionaux de prendre un peu aussi de leur part à tout cela. Mais on voit que c'est très difficile parce que partout où ils vont, en particulier là, les Haïtiens, mais d'autres, on parlait dans votre reportage du Chili et tout ça. Au Chili, ils veulent déjà pas des Vénézuéliens. Ils vont pas accepter les Haïtiens. On voit qu'on se les repasse et qu'on essaye de demander à chacun de prendre un peu sa part. Mais il n'y a pas de solution vraiment satisfaisante tant que Haïti sera dans l'état politique et puis même physique, là, après les différentes crises climatiques, dans l'état dans lequel est le pays. Les gens partiront quand ils pourront. Tous ceux qui vont pouvoir partir vont essayer de partir.
Juste un dernier mot très vite pour finir. Aussi, je voulais vous entendre là-dessus. L'administration Biden compte augmenter le plafond de l'accueil des réfugiés à 125 000 là à partir du 1er octobre. On double finalement ce qui jusque-là était autorisé. C'est une manière de redorer l'image de cette administration avec ce qui est en train de se passer.
Et puis c'est une promesse de campagne. Je veux dire, on s'est positionné face à Trump qui était inhumain et xénophobe et voilà sur les questions migratoires. Donc on a fait campagne dessus. Et donc oui, sur la politique, on va dire de l'exil et des réfugiés, il fallait augmenter ses quotas. Mais ceci dit, c'est une goutte d'eau par rapport au nombre de personnes susceptibles d'aller chercher l'Eldorado américain, que ce soit Haïti ou tous les autres pays de l'Amérique centrale. Et donc on est loin du compte.
Olivier Richaud, merci beaucoup, maître de conférence en civilisation américaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. On referme ainsi ce long dossier. Il est 9h26 à Port-au-Prince.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on est à nouveau en Martinique aujourd'hui. Bonjour Serge Massot.
Bonjour.
La Martinique, où les contraintes sanitaires commencent à être levées.
Oui, la situation épidémique s'améliore. Alors le couvre-feu est maintenu à 19h, mais l'accès aux plages est de nouveau autorisé le matin et l'après-midi. Et les commerces dits non essentiels peuvent rouvrir. Mais les habitants vont devoir se familiariser avec le pass sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui et qui interroge forcément les restaurateurs. Reportage d'Audrey Govindin.
Voilà 6 semaines que les salariés n'étaient pas revenus en cuisine. Ce mercredi, pour recevoir les premiers clients au pass sanitaire, l'incertitude gagne Max Minot, ce restaurateur aux spécialités mexicaines.
Moi, je pense déjà par exemple à une table de 6, où les 6, il y en a un qui n'a pas son pass. Presque obligé de refuser les 6 pour une personne. Bon, je pense qu'on aura un petit démarrage à faire dans ce sens pour voir comment les choses vont se mettre en place.
Le grand saut vers l'inconnu, c'est comme cela que beaucoup qualifient ce retour à l'activité. 650 restaurateurs dont on ne sait pour l'instant si tous relèveront le rideau ce mercredi. Ici, en plein cœur de Fort-de-France, Françoise tient encore le coup. Son enseigne a bonne réputation.
On serait content d'aller voir, mais si on les attend.
Et même ceux qui pensaient ne plus avoir la force de reprendre, ils mettront ce midi du cœur à l'ouvrage.
Oui, beaucoup d'inquiétudes parce que nous ne savons pas si les gens ont pris d'autres habitudes, si les gens vont reprendre le travail ici, surtout s'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Nous allons vraiment... Dans l'inconnu, là.
Les premiers contrôles du pass sanitaire devraient suivre dans la foulée.
À noter également le retour en classe en présentiel des élèves du premier degré qui devrait avoir lieu lundi prochain en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, 3 décès supplémentaires en 24 heures liés au Covid-19, mais la contestation de l'obligation vaccinale des personnels soignants se poursuit, à tel point que l'Institut médico-éducatif de Rémire-Montjoly a dû renvoyer chez eux les enfants traités en raison des tensions parmi le personnel soignant. En Guyane toujours, c'est une première inauguration hier à Cayenne du premier centre de prise en charge et de suivi des auteurs de violences conjugales. Isabelle Ignard-Krivski est la directrice régionale aux droits des femmes.
On s'est rendu compte pendant le Grenelle qu'il était beaucoup plus difficile de déplacer une victime qui est souvent une femme avec des enfants. Et ça signifie aussi une rescolarisation, donc trouver la place dans un établissement scolaire qui est proche du nouveau logement. Et là, c'est pas toujours facile, surtout chez nous. Et qu'il était beaucoup plus pratique, non seulement d'éloigner l'auteur, mais aussi de le prendre en charge, de l'accompagner. D'où les fameux modules dont parle le CPCA, c'est vraiment de mettre en place un accompagnement, déjà un diagnostic, et un accompagnement aussi au niveau de la santé et santé mentale, les addictions et jusqu'à l'insertion professionnelle.
Des propos recueillis par Franck Lecomte de Guyane La Première. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première qui refermait ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.